Bonjour, mes frères et sœurs. C'est toujours un plaisir de vous voir tous en ce jour de sabbat. J'ai écrit un article pour la rubrique Pillar, intitulé « Vous avez été créés à l'image de Dieu, et non l'inverse ». Combien d'entre vous s'en souviennent? Il a été publié dans le numéro de mars-avril, et il est très intéressant. Combien d'entre vous s'en souviennent? Très bien. Combien l'ont lu? Ce n'est pas grave. Je ne vais pas vous mettre dans l'embarras. Je suis sûr qu'il figure sur votre liste de lecture. Nous publions beaucoup de contenu, mais c'est bien de voir que beaucoup d'entre vous l'ont lu. C'était un article sur lequel j'avais beaucoup travaillé et qui traitait du fait que Dieu se reproduit lui-même, ce que je considère comme l'une des doctrines les plus étonnantes de toute la Bible. Et vous n'entendez vraiment aucune autre église le comprendre, encore moins le prêcher. Les catholiques ne le prêchent pas. Les musulmans ne le prêchent pas du tout. Ils ne le comprennent pas. Les catholiques et les musulmans, l'islam, ont le paradis ou l'enfer comme destination pour l'humanité, comme avenir pour l'humanité. On n'en entend pas parler chez les bouddhistes. Ils sont davantage axés sur la réincarnation et, je pense, le nirvana. C'est en quelque sorte, je pense, l'équivalent du paradis pour eux. Mais rien qu'avec ces trois religions, cela représente 3,5 milliards de personnes. Il n'y a que 8 milliards d'habitants sur Terre, et il existe de nombreuses autres religions. Mais vous n'entendez jamais parler d'églises qui comprennent et expliquent que Dieu se reproduit. Pourtant, vous avez vu les Écritures. C'est dans la Bible. C'est partout dans la Bible. Vous avez vu les Écritures. J'ai vu les Écritures. C'est très étonnant. C'est l'une des choses qui m'a vraiment enthousiasmé dans la rédaction de cet article. Mais c'était aussi pour nous rappeler notre avenir. Mais une grande partie de ce que je voulais faire avec cet article était en fait intégrée dans le titre, qui était « Vous étiez, nous, vous », mais le titre de l'article était « Vous avez été créés à l'image de Dieu », et non l'inverse, ce qui signifie que nous devons faire attention à ne pas créer Dieu à notre image ou à ne pas façonner Dieu à notre image. C'est censé être l'inverse. Les gens, même le peuple de Dieu, peuvent involontairement ou par erreur avoir cette vision déformée de Dieu, de qui il est, de comment il pense. Cela peut arriver. Il y a cette tendance humaine à façonner Dieu à notre image de lui, au lieu d'apprendre qui est le vrai Dieu de la Bible, le vrai Dieu de l'univers, d'apprendre qui il est, puis de nous façonner pour devenir plus comme lui. Vous vous dites peut-être, d'accord, mais comme vous dites que les gens ont tendance à faire cela, que c'est une tendance humaine, même le peuple de Dieu peut tomber dans ce piège. Je ne ferai pas cela. Je suis une exception. Je ne ferai pas cela. Je n'essaierai pas de façonner Dieu à mon image. C'est la dernière chose que je ferai. Eh bien, cela peut arriver. Cela peut arriver. Réfléchissez-y. Pensez à certaines des pensées que vous avez pu avoir. Peut-être vous êtes-vous surpris à penser, tu sais quoi? Dieu n'est heureux avec moi que lorsque je vais bien spirituellement. Dieu ne pense à moi que lorsque je vais bien spirituellement, lorsque tout va bien, lorsque j'étudie et que je prie comme je le devrais. C'est à ces moments-là que Dieu va vraiment m'aider. Ou encore, Dieu ne se concentre vraiment que sur le châtiment et la correction en fonction des décisions que j'ai prises. Dieu intervient et je l'entends lorsqu'il est temps de me corriger ou de me punir. Ou à l'inverse, Dieu ne se soucie pas vraiment des petits péchés que je commets. Il ne se soucie pas de ce genre de choses. Il ne s'intéresse qu'aux choses importantes. Vous savez, la fornication, l'ivrognerie ou l'idolâtrie. Mais Dieu ne se soucie pas vraiment de ses petits péchés. Il ferme les yeux là-dessus. Ou peut-être que parce que je ne me sens pas proche de Dieu, cela signifie que Dieu n'est pas vraiment proche de moi. Je ne le sens pas vraiment dans ma vie. Nous pouvons, mes frères, sur la base de nos émotions, de nos sentiments, peut-être parce que nous traversons une épreuve. Sur la base de toutes ces choses, nous pouvons, sans nous en rendre compte, subtilement façonner Dieu à notre image, plutôt que l'inverse. Nous pouvons finir par mettre Dieu dans une boîte, le limiter, sans même nous en rendre compte, sans même le faire intentionnellement. Donc, mon travail aujourd'hui, mon travail dans ce message, est bien sûr de nous aider à comprendre le vrai Dieu et à nous concentrer vraiment sur le Dieu que nous pensons connaître. Le Dieu que nous pensons connaître. Il est naturel que les gens se forgent une opinion sur les autres. Elle peut être basée sur la perception. Elle peut être basée sur toutes sortes de choses, sur nos expériences avec eux. Et nous avons tendance à baser nos sentiments sur les gens ou les situations, mais dans ce cas, sur les gens, ou les autres, en fonction de ce que nous pensons savoir d'eux. En fonction de nos expériences avec eux, de notre point de vue sur eux. Et ce que les gens pensent de Dieu, ce que nous pensons de Dieu, peut également entrer dans cette catégorie. Mais la vérité est que la plupart des gens, et je parle ici des gens en général, des gens à travers le monde, des milliards de personnes, la plupart des gens ne connaissent tout simplement pas Dieu. Ils ne savent pas qui il est. En fait, je ne connaissais pas Dieu. Je ne savais pas qui était le vrai Dieu jusqu'à ce qu'il se présente à moi. Je suis sûr que vous pouvez tous dire la même chose. Je ne savais pas qui était le vrai Dieu. J'avais une perception de qui était Dieu ou de qui est Dieu, mais cela était uniquement basé sur mon point de vue. Ce que je pensais savoir de lui ou ce que d'autres personnes m'avaient dit à son sujet. Et cela a toujours été le cas tout au long de l'histoire humaine. Les gens ont toujours eu ce genre de pensée, « Bon, qui est Dieu ?» Je pense savoir qui il est, et ils se sont forgés leur propre opinion. Ouvrez votre Bible au chapitre 1 de l'Épître aux Romains. Tout au long de l'histoire humaine, les gens se sont forgés leurs propres idées et ont eu leurs propres opinions sur qui est Dieu et ce qu'il est. Chapitre 1 de l'Épître aux Romains. Nous allons reprendre au verset 18. Romains chapitre 1, verset 18. Car la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, dit-il. D'accord. Ils ont donc une vision déformée de la vérité. Verset 19. Car ce qui peut être connu de Dieu est manifeste parmi eux, car Dieu le leur a révélé. En effet, les choses invisibles de Dieu, depuis la création du monde, sont clairement visibles à l'intelligence, étant comprises par les choses qui ont été faites, même sa puissance éternelle et sa divinité, de sorte qu'ils sont inexcusables. Or, Dieu est invisible. Nous ne pouvons pas le voir. Nous ne pouvons pas voir Dieu. Et cela ouvre la porte, cela donne aux gens la possibilité d'avoir toutes sortes d'opinions sur qui est Dieu et ce qu'il est. Car Dieu n'est pas quelqu'un qui peut simplement entrer dans une pièce et que nous pouvons voir et apprendre qui il est. Cela ne fonctionne pas ainsi. Le verset 20 parle donc des choses invisibles, des choses de la création. Nous pouvons regarder autour de nous. Et en regardant autour de nous et en ayant des yeux pour voir, ces choses devraient rendre les hommes sans excuse quant à qui est Dieu. Continuons notre lecture. Verset 21. Car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leur raisonnement, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Les gens avaient donc l'occasion de savoir qui est Dieu, mais ils ne l'ont pas vu ainsi. Verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en une image représentant un homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Ils avaient donc l'occasion de comprendre le Dieu invisible à travers la création, mais au lieu de comprendre le Dieu invisible, ils ont fait de Dieu une image. Dans ce cas, il peut s'agir d'hommes, d'oiseaux, de bêtes, de reptiles, c'est-à-dire d'insectes. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les désirs de leur cœur, à la honte de leur propre corps. Ainsi, parce que l'homme a réduit Dieu à ce qu'il a créé, c'est-à-dire les hommes, les animaux, les bêtes, Dieu les a livrés à cette pensée. Verset 25. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ils ont adoré et servi la créature plutôt que le Créateur qui est béni éternellement. Ainsi, les hommes ont réduit Dieu aux choses qu'il a créées. C'est intéressant, il y a des gens qui réduisent Dieu à une sorte d'animal, un oiseau, un aigle, toutes sortes de choses bizarres que les gens adorent et vénèrent. C'est intéressant, Dieu a donné aux êtres humains la domination sur les animaux, et pourtant les hommes adorent les animaux. C'est donc l'inverse. Au lieu d'adorer le Dieu véritable et vivant, ils adorent ce que Dieu a placé sous l'humanité. C'est une confusion totale. Mais le fait est que c'est ce que les gens peuvent voir. C'est ce que les gens peuvent comprendre. Et Dieu les a livrés à cette façon de penser. Il les a livrés à cette façon de penser. Mais ce n'est qu'un exemple, et cela décrit la fin des temps, mais cela a toujours été ainsi, ce que nous venons de lire, cela a toujours été ainsi depuis des millénaires. Mais cela montre comment les gens façonnent régulièrement Dieu à leur image, au lieu de comprendre le vrai Dieu. Maintenant, vous pourriez penser, d'accord, ce sont les gens dans le monde, et cela décrit le monde, ce que nous lisons ici. Vous pensez, d'accord, ce sont les gens du monde. Le peuple de Dieu est différent. Nous ne ferions jamais rien, nous ne ferions jamais quelque chose d'aussi stupide que d'avoir cette vision erronée de Dieu. Et oui, bien sûr, c'est extrême. Je ne crois pas que le peuple de Dieu adore les aigles, les poissons et les reptiles, ou quoi que ce soit qui s'en approche. Mais le peuple de Dieu peut tomber dans le piège. Ouvrez votre Bible à Exode chapitre 32. Exode chapitre 32. Le peuple de Dieu peut tomber dans le piège qui consiste à façonner Dieu à son image, selon sa propre perception et ses propres expériences. Exode chapitre 32. À ce stade de notre lecture, à ce stade, parmi le peuple de Dieu, je fais référence aux enfants d'Israël, à ce stade, ils étaient certainement le peuple de Dieu, et ils auraient dû se considérer comme tels. À ce stade de l'Exode, ils avaient traversé pas mal d'épreuves. Dieu avait délivré son peuple d'Égypte, de l'esclavage. Ils avaient crié vers lui, et Dieu, à ce moment-là, avait bien sûr entendu leurs cris, et il avait utilisé Moïse pour les délivrer. Et ils avaient vécu de nombreux miracles. Ils avaient vu tous les miracles qui avaient été nécessaires pour être délivrés. Ils avaient vu les plaies, traverser les 10 plaies, et cela se trouvait dans Exode 7 à 11. Ils avaient traversé toutes les différentes plaies et avaient amené Pharaon à comprendre qui était Dieu, tout en aidant le peuple à comprendre qui était Dieu. Ils avaient traversé la Pâque. Souvenez-vous de l'ange de la mort, ils devaient mettre du sang sur les montants de leurs portes, et l'ange de la mort passerait leur maison si elles étaient marquées de ce sang. Encore une fois, c'était une autre façon de comprendre, pour ces gens, qui était Dieu, le vrai Dieu. À ce stade, Dieu avait manifestement attiré non seulement l'attention des Égyptiens, mais aussi celle du peuple. Ils avaient traversé la mer Rouge, comme le raconte le chapitre 14 de l'Exode, Et vous vous souvenez de toutes ces expériences. Et vous savez qu'à ce moment-là, ils s'étaient échappés, ils étaient pris au piège entre l'armée derrière eux et la mer devant eux. Ils avaient crié vers Dieu, et Dieu, le vrai Dieu, les avait délivrés. Il avait ouvert la mer, et il l'avait traversée. Le peuple avait donc eu de nombreuses occasions de comprendre qui était Dieu, de comprendre qu'ils étaient son peuple et comment il avait utilisé Moïse, Aaron et les miracles pour les délivrer. C'était la présence de Dieu à travers le feu, la colonne de feu et la colonne de nuée. Ils n'avaient donc vraiment aucune excuse, aucune excuse. J'espère que vous êtes arrivés au chapitre 32 de l'Exode, je veux juste m'assurer que vous comprenez bien où nous en sommes, afin que vous puissiez apprécier ce que nous allons lire. Moïse était monté sur le mont Sinaï, il était resté sur la montagne, il avait communié avec Dieu, et il était parti depuis environ 40 jours. Il était donc resté là-bas pendant environ 40 jours, communiant avec Dieu, et vous lisez dans les versets qu'il a reçu les lois, les statuts et toute cette compréhension, toutes les choses que Dieu voulait que Moïse assimile afin qu'il puisse diriger et guider le peuple. Mais il était parti depuis environ 40 jours, et le peuple avait commencé à s'agiter, et il n'a fallu que 40 jours, un peu plus d'un mois, pour que le peuple revienne à ses anciennes habitudes. C'est là que nous allons reprendre maintenant, c'est là que nous allons commencer à lire dans Exode 32. Bon, Exode 32, verset 1, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, rappelez-vous qu'il était là, il était parti depuis 40 jours, le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Lève-toi, fais-nous des dieux, vous connaissez tous le récit. Fais-nous des dieux qui marcheront devant nous, car quant à ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Nous ne savons pas où il est. Nous ne savons pas où est Moïse. Il n'est pas revenu. Certains ont supposé qu'il était mort, peut-être perdu, peut-être brûlé. Vous savez, c'est la montagne qui a tremblé et craché du feu. Ils ont commencé à imaginer toutes sortes de choses, mais nous ne savons pas où il est, alors lève-toi, Aaron, et fais-nous des dieux. » Verset 2, Aaron leur dit, « Enlevez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. » Aaron n'hésita pas un instant, il le fit sans même se débattre. C'est assez choquant, surtout quand on sait qui était Aaron et tout ce qu'il avait vu. Verset 3, tout le peuple ôta les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apporta à Aaron. J'ai réfléchi à cela, vous savez, quand on étudie cela et qu'on y regarde de plus près, on se dit, d'accord, ils avaient des boucles d'oreilles, ils avaient de l'or, et ils en avaient suffisamment pour pouvoir les arracher et, comme nous allons le lire, finir par fabriquer une idole. D'où venait cet or? D'où venait cet or? Il s'agissait très certainement de l'or qu'ils avaient pillé aux Égyptiens, vous vous souvenez? Quand ils se sont échappés, ils étaient esclaves, alors où ont-ils trouvé des boucles d'oreilles en or et des bijoux? Il s'agissait très certainement de l'or qu'ils avaient pillé aux Égyptiens, et ils en avaient suffisamment pour pouvoir fabriquer une idole. Je voudrais juste prendre un moment, mes frères, pour apprécier et vous aider à comprendre les bénédictions, et ils sont tombés dans ce piège. Parfois, les bénédictions que Dieu nous donne, les bénédictions qui viennent directement de Dieu, ils avaient obtenu ces choses, ils avaient pillé les Égyptiens, c'était une bénédiction de Dieu. Parfois, nous pouvons prendre ces mêmes bénédictions, les retourner et en faire mauvais usage. Nous devons être très, très prudents à ce sujet. Très prudents. Dieu peut nous ouvrir une porte, nous bénir d'une manière ou d'une autre, peut-être nous donner plus de revenus, peut-être nous donner une voiture ou une maison ou simplement quelque chose qui, quelque chose de matériel qui peut améliorer notre vie, mais si nous ne faisons pas attention, nous pouvons détourner cette bénédiction et en faire mauvais usage. Nous devons être très prudents à ce sujet. Très prudents. Reprenons au verset 4. Aaron les reçut de leurs mains, et, après avoir fait un veau d'or, il le façonna avec un burin. Et ils dirent, « Écoute, Israël, ce sont là tes dieux, qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. » C'est la partie de ce récit qui m'a le plus frappé. Non seulement ils ont créé un veau d'or pour l'adorer, mais ils ont également attribué à ce veau, à ce dieu, le mérite de les avoir délivrés d'Égypte. C'était le peuple de Dieu, ils avaient vu de nombreux miracles, ils avaient vécu de nombreuses expériences avec le vrai Dieu. Rappelez-vous, ils avaient vu la montagne trembler, toutes ces choses, et ils se sont si rapidement retournés, non seulement ils ont fabriqué un veau d'or, mais ils ont attribué à ce veau le mérite d'être les dieux ou le dieu qui les avait fait sortir d'Égypte. Cela n'a pris qu'environ 40 jours d'absence de Moïse. C'était le peuple de Dieu. Reprenons ici, au verset 5. Aaron, voyant cela, bâtit un autel devant la statue, et il fit une proclamation et dit, « Demain, c'est la fête de l'Éternel. » Il célèbre donc maintenant une fête devant ce faux Dieu. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, offrirent des holocaustes et apportèrent des sacrifices de paix. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis il se leva pour se divertir. Ils sont donc à présent à l'aise. Et, c'est notre Dieu. Notre Dieu est ici, il est de retour, nous pouvons le voir. Nous pouvons le voir maintenant. Il n'est plus invisible. Et l'Éternel dit à Moïse, « Va, descends vers ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, car il s'est corrompu. Il s'est rapidement détourné de la voie que je lui avais prescrite. Il s'est fait un veau en métal fondu, il l'a adoré et lui a offert des sacrifices, et il a dit, « Israël, voici tes dieux, qui t'ont fait sortir du pays d'Égypte. » Dieu devait être tellement blessé et en colère par cet événement. L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi faire, que ma colère s'enflamme contre eux, que je les consume, et je ferai de toi une grande nation. Moïse, je vais simplement les détruire, je vais simplement t'utiliser et faire de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflamme-t-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et une main forte ? Les Égyptiens diront, « C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, pour les tuer dans les montagnes et les détruire de la face de la terre. » Détourne de nous ta colère ardente, et renonce à ce mal contre ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, à qui tu as juré par toi-même et dit, « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, et tout ce pays que j'ai promis, je le donnerai à ta postérité, et elle le possédera pour toujours. » Moïse rappelait à Dieu son plan. Verset 14. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait pensé faire à son peuple. Dieu était donc miséricordieux. Dieu était miséricordieux. Nous y reviendrons plus tard. La miséricorde de Dieu. Verset 19. Nous allons terminer le récit ici. Passons au verset 19. Et il arriva, dès qu'il s'agit de Moïse, approcha du camp, il descend donc de la montagne, il approcha du camp, qu'il vit le veau et la danse, et la colère de Moïse s'enflamma, et il jeta les tables de ses mains et les brisa au bas de la montagne. Je trouve cela intéressant, vous savez, Dieu était en colère. Moïse essayait en quelque sorte de calmer Dieu en disant, « Père, ne te mets pas en colère. Ce sont ton peuple. Et Dieu s'est repenti. Vous savez, Dieu a décidé de ne pas, vous savez, sa colère s'est apaisée. Puis Moïse est descendu et il s'est mis en colère. Je me demande si c'était parce que Moïse ne pouvait auparavant qu'imaginer ce que faisait le peuple. Mais quand il l'a vu de ses propres yeux, quand il a vu le veau en or et le peuple qui dansait autour, il a dit, « Quoi ?» Et il s'est mis en colère. Il a pu le voir de ses propres yeux. Je trouve cela intéressant. Et il prit le veau, verset 20, qu'ils avaient fait, et il le brûla dans le feu, le réduisit en poudre, répandit la poudre sur l'eau et fit boire les enfants d'Israël. Boire. Je l'imagine leur dire, buvez-le. Vous voulez danser autour et adorer ce faux Dieu. Et Moïse dit à Aaron, qu'est-ce que ce peuple t'a fait, pour que tu lui imposes un si grand péché? Frère, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que le peuple t'a fait pour que tu fasses cela? À quoi pensais-tu? C'est ce qu'il dit à Aaron. À quoi pensais-tu? Et Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme point. Tu sais que ce peuple est en proie à la méchanceté. Tu sais comment ils sont. Tu sais comment ils sont. Je devais juste les calmer. Je suis sûr que Moïse se tenait la tête en se disant, « Oh, Aaron, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait ?» Aaron répond, « Tu connais ce peuple. Ils sont difficiles à gérer. » Puis il poursuit son récit et Aaron explique exactement ce qui s'est passé et comment il en est arrivé là. Verset 25. Et quand Moïse vit que le peuple était nu, car Aaron l'avait dépouillé et mis à nu devant ses ennemis, il dansait nu autour de la statue. Moïse se tint à l'entrée du camp et dit, « Qui est pour l'Éternel ? Qu'il vienne à moi. » Et tous les fils de Lévi se rassemblèrent autour de lui. Et il leur dit, « Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, que chacun mette son épée à son côté, et que vous alliez de porte en porte dans le camp, et que chacun tue son frère, et chacun son compagnon, et chacun son voisin. » Et les fils de Lévi firent selon la parole de Moïse. Et il tomba ce jour-là environ 3000 hommes du peuple. Je voulais m'assurer d'inclure cette partie. 3000 personnes sont mortes. Mes frères, 3000 personnes sont mortes parce que le peuple de Dieu a fait de Dieu son image, au lieu de l'inverse. 3000 personnes ont perdu la vie à cause de cela. Le peuple a remodelé Dieu. Cela était basé sur leur peur, leur impatience, leurs émotions. Et nous? Et nous? Nous ne fabriquons peut-être pas d'idoles, d'idoles en or. Nous n'oserions pas faire une chose pareille. Mais remodélons-nous Dieu en fonction de nos propres peurs, de notre propre impatience, de nos propres émotions. Remodélons-nous cette image de Dieu dans notre esprit comme l'ont fait les gens. Si nous ne faisons pas attention, nous pouvons nous retrouver à limiter Dieu. Nous pouvons le limiter à être impatient. Nous pouvons le limiter à être facilement déçu. Nous pouvons avoir dans notre esprit un Dieu qui est si facilement déçu par nous. Nous pouvons avoir une image de Dieu trop sévère, une image de Dieu trop indulgente, ou n'importe quelle émotion ou perspective humaine, et nous pouvons finir par les attribuer à Dieu sans même nous en rendre compte. Souvent, si nous ne faisons pas attention, notre image de Dieu peut être basée sur ce que nous pensons de nous-mêmes ou sur ce que les autres pensent de nous, sur ce que les autres êtres humains pensent de nous, ou sur ce que nous pensons qu'ils pensent de nous. Et nous pouvons prendre cela, le superposer et dire que c'est ce que Dieu pense de nous. Et cela peut être très loin de la réalité. Quelle que soit la raison de notre « nous pouvons involontairement, inconsciemment, construire cette fausse image de Dieu dans notre esprit. Mais rappelez-vous, nous avons été créés à l'image de Dieu, et non l'inverse. Genèse, chapitre 1. Genèse, chapitre 1. Ouvrez à la verset 26. Genèse, chapitre 1, verset 26. C'est un verset classique. Genèse, chapitre 1, verset 26. Et Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Je répète. « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Si vous examinez les mots « image » et « ressemblance », vous constaterez qu'ils sont très similaires. « Image » et « ressemblance » sont des mots très similaires. Mais pour notre propos aujourd'hui, je voudrais que nous considérions « image » comme ressembler à Dieu, l'image de Dieu. Faisons donc l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et considérons « ressemblance » comme penser comme Dieu ou agir comme Dieu. Faisons donc l'homme à notre image pour qu'il ressemble à Dieu et à notre ressemblance pour qu'il agisse comme Dieu. Tel était le dessein de Dieu depuis le commencement. Notre but, mes frères, le but du christianisme, dans l'Église, vous le savez, n'est pas seulement de ressembler à Dieu, mais de penser comme lui, d'avoir ses traits spirituels, d'être pleinement Dieu. Maintenant, la première étape pour y parvenir, allez à Jean 4. Jean chapitre 4. La première étape pour que cela se réalise, pour être fait dans le, eh bien, nous sommes déjà faits, mais pour devenir, pour ressembler à Dieu et agir comme Dieu. Jean 4. La première étape importante pour y parvenir. Jean 4. Verset 24. Jean chapitre 4. Verset 24. Jean 4, verset 24 dit, « Dieu est esprit. » Cela signifie que nous ne pouvons pas le voir. Il est invisible. Vous savez, l'esprit ne peut pas être perçu par les yeux. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Et j'ajouterai que nous devons adorer et comprendre Dieu en esprit et en vérité. Et, bien sûr, la compréhension doit aller de pair. Comment pouvez-vous adorer quelque chose ou quelqu'un que vous ne comprenez pas? Nous devons donc adorer et comprendre Dieu en esprit et en vérité. Pour vraiment comprendre et finalement devenir Dieu, pour comprendre et devenir Dieu, nous ne pouvons pas nous contenter de nos sentiments. Nous ne pouvons pas nous contenter de notre imagination de qui est Dieu. Pour vraiment l'adorer et le comprendre, nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Nous devons nous fier à l'Esprit de Dieu en nous ou à son œuvre en nous si vous êtes pour mémoire et que vous vous préparez au baptême ou si vous n'avez pas encore l'âge du baptême. Mais nous devons nous fier à l'Esprit de Dieu pour le comprendre et l'adorer, ainsi qu'à la vérité des Écritures pour comprendre et adorer Dieu, et non à notre imagination ou à ce que quelqu'un nous a dit à propos de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas guidé par son esprit ou par les Écritures. Et cela élimine toutes les idées humaines. Lorsque nous adorons Dieu en esprit et en vérité, cela élimine toutes les idées humaines sur qui est Dieu et ce qu'il est. Cela élimine tout cela. Nous apprenons qui est le vrai Dieu lorsque nous l'adorons en esprit et en vérité. Commençons donc par une vérité sur Dieu. Ouvrez votre Bible au chapitre 7 de Daniel. À quoi ressemble Dieu? À quoi ressemble Dieu? Rappelez-vous, nous allons être créés à son image. À quoi ressemble Dieu? Inutile de passer par des idées humaines. Nous pouvons aller directement aux Écritures. Daniel chapitre 7, à quoi ressemble Dieu? C'est une description de Dieu le Père. Daniel chapitre 7, verset 9. Et je regardais jusqu'à ce que les trônes furent placés, et l'Ancien des jours, c'est le Père, s'assit, dont le vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête comme la laine pure. Son trône était comme une flamme de feu, et ses roues comme un feu brûlant. Nous avons donc cette image, cette vision, cette représentation de ce à quoi ressemble Dieu. Son vêtement était blanc, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. C'était le Père. C'est ainsi que le Père est décrit. Il y a d'autres descriptions dans les Écritures, mais celle-ci est importante. Qu'en est-il du Christ? Allez au chapitre 7 de Matthieu. Chapitre 7 de Matthieu. Excusez-moi, chapitre 17 de Matthieu. Chapitre 17 de Matthieu. Nous allons examiner la transfiguration, où nous voyons Christ dans toute sa splendeur. Bien sûr, avant cette transfiguration, Christ était un être humain revêtu d'une chair, mais nous allons avoir une vision et une perspective de ce à quoi il ressemble. Matthieu 17, c'est la transfiguration. Matthieu 17, verset 2, et il fut transfiguré, en référence au Christ, transfiguré devant eux, et son visage resplendissait comme le soleil, et ses vêtements, ou ses habits, étaient blancs comme la lumière. Cela ressemble beaucoup au Père. Nous voyons donc que le visage du Christ resplendissait comme le soleil. Le soleil est brillant. On ne peut pas regarder le soleil sans être aveuglé pendant un certain temps. Le visage du Christ brillait donc comme le soleil, et ses vêtements étaient blancs. Passons à l'Apocalypse. Le chapitre 1 de l'Apocalypse contient une autre description du Christ en tant qu'être divin. Le chapitre 1 de l'Apocalypse. Lisons quelques versets, en commençant au verset 13. Le chapitre 1 de l'Apocalypse, verset 13. Il s'agit d'une description un peu plus détaillée du Christ en tant qu'être divin. Apocalypse 1, 13. Au milieu des sept chandeliers, il y avait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe qui descendait jusqu'aux pieds, et ceint d'une ceinture d'or qui arrivait jusqu'aux reins. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine, cela ressemble, oui, repensez à Daniel. Ses cheveux étaient blancs comme de la laine et blancs comme la neige, et ses yeux étaient comme une flamme de feu, et ses pieds étaient comme de l'airain brillant, comme s'ils étaient dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Mes frères, je pourrais faire des sermons entiers sur l'apparence physique de Dieu. Je pourrais faire des sermons entiers là-dessus, mais j'ai juste choisi quelques versets qui décrivent à quoi il ressemble pour montrer qu'on n'a pas besoin d'imaginer ou de penser quoi que ce soit en dehors des Écritures pour savoir à quoi ressemble Dieu, le Père ou Christ. Et finalement à quoi on ressemblera. Le monde a toutes sortes d'idées sur l'apparence de Dieu. Certains le voient comme un globe lumineux, comme une sphère. Vous l'avez vu dans les films et dans la culture. Ou bien il est simplement une lumière brillante. Dieu n'est qu'une lumière brillante. Certains voient Dieu comme un vieil homme à l'air sage, ou certains voient même Dieu comme une femme. Il existe toutes sortes d'idées, mais nous n'avons pas besoin de cela. Nous pouvons nous tourner vers les Écritures pour savoir à quoi ressemble Dieu. Quand vous imaginez à quoi ressemble Dieu, qu'imaginez-vous? Avez-vous des idées farfelues sur l'apparence de Dieu? Si c'est le cas, ce n'est pas grave. N'oubliez pas que nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous avons les Écritures qui nous expliquent et nous montrent exactement à quoi ressemble Dieu. Bien sûr, Dieu peut prendre la forme qu'il veut, mais il a donné une description de son apparence, et il l'a fait pour une raison. Gardons cela à l'esprit lorsque nous imaginons et réfléchissons à l'apparence physique de Dieu et, en fin de compte, à notre propre apparence. N'oubliez pas que nous sommes créés à son image et que, en particulier lorsque nous naissons dans la famille de Dieu, nous ressemblerons presque certainement aux descriptions que nous venons de lire. Mais il est important de comprendre, comme je l'ai mentionné, à quoi ressemble Dieu afin d'avoir une vision correcte, mais aussi afin de savoir à quoi nous ressemblerons. Psaume 82. Psaume 82. Ouvrez votre livre des psaumes. Psaume 82. Je voudrais prendre un moment ici pour nous inspirer. Cela nous ramène en quelque sorte à l'article que j'ai écrit sur la doctrine de Dieu se reproduisant lui-même. Voici quelques excellents passages bibliques à méditer sur cette doctrine. Psaume 82, verset 6. Psaume 82, verset 6, j'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des enfants du Très-Haut. On nous dit donc ici que vous, en parlant des gens, des êtres humains, vous êtes des dieux, et vous êtes tous des enfants du Très-Haut. C'est le Père. Nous sommes tous des enfants du Très-Haut. La plupart des enfants ressemblent à leur père. Je ressemble à mon père. Ne me demandez pas ce que j'en pense. J'aime mon père. Mais je ressemble à mon père. La plupart des enfants ressemblent à leur père. Mes frères, nous allons ressembler à notre Père qui est dans les cieux. Et nous venons de lire à quoi il ressemble. À quoi ressemble Christ, notre frère aîné? Vous vous souvenez à quel point ils se ressemblaient? Leurs vêtements étaient blancs. Leurs cheveux étaient comme de la laine, blancs. Imaginez-vous à leur place. Luc 20, regardons, voyons plus de descriptions de notre avenir. Luc chapitre 20. Vous êtes des dieux, des enfants du Très-Haut. Luc chapitre 20, verset 34. Plus de descriptions de notre avenir. Luc chapitre 20, verset 34. Luc 20, 34. Jésus lui répondit, les enfants de ce monde se marient et sont donnés en mariage. Mais ceux qui seront jugés dignes d'obtenir ce monde, parlant du monde à venir. Ceux qui sont dignes d'obtenir ce monde et la résurrection d'entre les morts, ne se marient point et ne sont point donnés en mariage. Et ils ne peuvent plus mourir. Ils sont donc immortels. Car ils sont semblables aux anges et sont enfants de Dieu, étant enfants de la résurrection. Rappelez-vous, nous sommes des enfants pour être les enfants du Très-Haut. Vous êtes des dieux. Revenons au psaume 82. Et il est dit ici qu'ils ne mourront plus. Ils sont semblables aux anges. Ils sont les enfants de Dieu, les enfants de la résurrection. Ils sont nés de nouveau. Semblables aux anges. Mes frères, tel est notre état glorieux futur. Nous serons donc des anges. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Ce n'était qu'une description de ce que nous serons. Mais en fin de compte, nous ne serons pas égaux aux anges. Hébreux chapitre 1. En fin de compte, nous ne serons pas égaux aux anges. Hébreux 1, 13. Hébreux 1, verset 13. Mais à quel ange a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits ministériels, en référence aux anges, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Les héritiers du salut. Mes frères, nous sommes les héritiers du salut. Nous serons au-delà des anges. Les anges nous serviront. Nous serons comme les anges en ce sens que nous ne pourrons pas mourir. Nous serons des êtres très puissants. Mais nous serons au-dessus des anges. Les anges nous serviront. Tout comme les anges servent Dieu le Père et Christ aujourd'hui. Nous serons au-dessus des anges. Le psaume 82 dit que vous êtes des dieux. Il ne dit pas que vous êtes des anges. Vous êtes des dieux et des enfants du Très-Haut. Dieu n'a jamais parlé aux anges comme il nous parle dans notre avenir. Mes frères, nous devons devenir dieux. Les scribes et les pharisiens connaissaient la différence. Ils connaissaient la différence lorsque Christ a dit cela. Ils connaissaient la différence. C'est pourquoi ils l'ont tué. Ils l'ont tué pour cette raison précise. Revenons à Jean 10. Jean 10. Ils ont tué Christ parce qu'il a dit que vous êtes des dieux. Que vous devez devenir Dieu. Jean chapitre 10, verset 32. Jean chapitre 10, verset 32. Commençons au verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Jean 10, 30. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs reprirent des pierres pour le lapider. Pourquoi le lapide-t-il ? Pourquoi s'apprête-t-il à le lapider ? Verset 32. Jésus leur répondit, « Je vous ai montré beaucoup de bonnes œuvres venant de mon Père qui est dans elles. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous ? Pourquoi allez-vous me lapider ? Je n'ai fait que du bien. » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour blasphème. Et parce que tu es un homme, tu te fais Dieu. Tu es un homme. Comment peux-tu dire que tu es Dieu ?» La réponse du Christ était tout simplement incroyable. Verset 34. Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, « Je vous ai dit que vous êtes des dieux ?» Psaume 82. Vous êtes des dieux. Les enfants du Très-Haut. Verset 35. Si Dieu a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et que l'Écriture ne peut être annulée. Si donc il a appelé Dogs ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, vous qui parlez de celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous blasphémez, parce que j'ai dit que je suis le Fils de Dieu. Vous êtes gods. Je vous l'ai dit. Pourtant, quand je viens, moi qui ai été envoyé, le Fils de Dieu, et que je viens vous dire que je suis Dieu, vous voulez me lapider. Essayez de comprendre. Ils ont accusé Christ de blasphème parce qu'il a dit qu'il était le Fils de Dieu. Ils l'ont accusé de blasphème. Mes frères, certains en dehors de cette église qui entendent ce message et m'entendent parler ainsi pourraient m'accuser de blasphème. Tu vas devenir Dieu ? C'est un blasphème. Je dois avouer que lorsque j'ai lu cela pour la première fois, lorsque j'ai découvert cette vérité, lorsque j'ai découvert l'église de Dieu restaurée, j'ai pensé que c'était un blasphème. Comment cela se peut-il ? On ne peut pas devenir Dieu. Il est Dieu. On ne peut pas devenir Dieu. Mes frères, nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Nous ne pouvons pas avoir nos propres idées imaginaires sur qui est Dieu et ce qu'il fait. Ce message n'est pas un blasphème. Loin de là. Loin de là. Ouvrez votre Bible au chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Mes frères, notre avenir est radieux. Notre avenir est radieux. Romains chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Romains 8, verset 28 dit, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cela fait référence à nous, mes frères. Nous sommes tous appelés, et nous sommes tous appelés selon le dessein de Dieu. Nous avons parlé du dessein de Dieu tout au long de ce message. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il y ait en lui toute la plénitude des choses. Cela fait directement référence à notre naissance dans la famille de Dieu. Nous avons été connus d'avance par Dieu et prédestinés à être conformes à cela. À être les premiers-nés, nés de nouveau parmi de nombreux frères. Verset 30. De plus, ceux qu'il a prédestinés, en référence à nous. Il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Mes frères, j'ai dit que notre avenir est radieux. Notre avenir est radieux. Nous allons être dans la gloire. Être glorifié, ressembler au Père et au Christ. C'est le but. C'est notre destination. Nous avons été créés à son image. Créés pour finalement lui ressembler dans la gloire. Pour briller. C'est incroyable. Incroyable. Nous avons été créés à l'image de Dieu, mais aussi à la ressemblance de Dieu. Nous avons également été créés à la ressemblance de Dieu. Nous devons également penser et agir comme Dieu. Et c'est ainsi que nous l'adorons en esprit et en vérité. Nous avons lu la vérité de Dieu. Nous avons eu un aperçu de ce à quoi il ressemble et de ce à quoi nous ressemblerons. Et c'est la vérité. Nous l'avons lu. C'est la vérité. Mais nous devons aussi l'adorer en esprit. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que Dieu pense. Nous devons aussi penser comme Dieu, Ésaïe 55. Ésaïe 55. Nous devons ressembler à Dieu. Nous ressemblerons à Dieu. Et pour finir par ressembler à Dieu, nous devons penser comme Dieu, Ésaïe 55. Ésaïe 55. Nous allons lire le verset 8. Ésaïe 55, verset 8. Car mes pensées, c'est Dieu qui parle. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Nous parlons donc directement de la façon dont Dieu pense et agit. Il nous dit que ses voix, ses actions et ses pensées sont au-dessus des actions et des pensées humaines. À quel point sont-elles au-dessus? Aussi haut que les cieux sont au-dessus de la terre. Car comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi l'Esprit de Dieu est-il plus élevé que notre esprit. Ainsi, ses actions sont plus élevées que nos actions. Mes frères, lorsque l'Esprit de Dieu agit en vous, vous avez deux pensées, deux façons de penser qui agissent en vous. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque vous avez, et je le répète, lorsque vous avez l'Esprit de Dieu, vous avez deux pensées qui agissent en vous, deux esprits qui agissent en vous. Vous avez l'Esprit de Dieu qui agit en vous, et vous avez vos propres pensées humaines qui agissent en vous. Vous avez donc en réalité deux pensées lorsque vous avez l'Esprit de Dieu en vous ou que c'est l'Esprit de Dieu qui agit avec vous. Vous avez deux pensées en vous. Réfléchissez-y. Vous êtes confronté à une situation, peut-être une tentation, et vous entendez la petite voix de l'Esprit de Dieu qui vous dit « Ne fais pas cela. Cela va te faire du mal. Ne fais pas cela. » Et vous avez vos propres pensées qui vous disent « Ce n'est pas si grave. Je l'ai fait la dernière fois et cela s'est bien passé. » Ce sont deux pensées qui s'affrontent en vous, les pensées de Dieu, qui sont bien, bien, bien supérieures à vos propres pensées, et vos propres pensées, qui sont bien inférieures aux pensées de Dieu. La question est de savoir à quelle voix vous allez obéir. Allez-vous écouter la voix de Dieu qui vous dit « Ne fais pas cela » Allez-vous écouter votre propre voix qui vous dit « Vas-y, cela ne te fera pas de mal. Tu l'as déjà fait la dernière fois, il n'y a pas de problème. » Votre mesure de croissance, votre croissance en tant que chrétien, en tant que personne qui cherche à devenir Dieu, votre mesure de croissance est la fréquence à laquelle vous écoutez les pensées de Dieu plutôt que vos propres pensées. Ces actions de Dieu, et vous agissez comme Dieu agirait, vous faites les choses que Dieu ferait plutôt que les choses que vous voulez faire en tant qu'être humain. Votre mesure de croissance est basée sur la fréquence à laquelle vous écoutez Dieu plutôt que vous-même. C'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que cela. Mes frères, nous devons grandir. Les pensées de Dieu sont bien au-dessus des nôtres. Ses actions sont bien au-dessus des nôtres. Nous devons grandir à partir de nos propres pensées et actions, grandir pour atteindre les actions de notre Père. Grandissez. Nous devons grandir spirituellement. C'est aussi simple que cela. Ce n'est pas facile, mais c'est aussi simple que cela. Nous ne voulons pas avoir cette vision déformée de Dieu, cette vision faussée de Dieu en tant que notre Père. Nous devons avoir une vision correcte de Dieu pour savoir vers quoi nous grandissons, ce que nous devenons. Dieu n'est pas un être mesquin et vengeur qui garde rancune à ses enfants. Vous faites quelque chose de mal et Dieu est en colère contre vous et veut se venger. Ce n'est pas vrai. Mais il n'est pas non plus laxiste et laissez faire, faites ce que vous voulez. Cela n'a aucune conséquence. Je ne m'en fais pas. Dieu n'est pas cela non plus. Ce sont deux extrêmes. Ce n'est pas qui Dieu est. Les gens se forgent leur opinion sur Dieu pour toutes sortes de raisons. Peut-être ont-ils eu de mauvais parents pendant leur enfance et pensent-ils, mes parents étaient comme cela, donc Dieu est comme cela. Peut-être ont-ils eu un mauvais pasteur ou une mauvaise expérience religieuse et pensent-ils, bon, voilà qui est Dieu. Et cette personne a donné une fausse image de Dieu. Ce n'est pas du tout qui est le vrai Dieu. Peut-être ont-ils simplement eu de mauvaises expériences avec l'autorité. En grandissant, quelqu'un les contrôlait tout le temps. Et ils ont commencé à se faire une idée de Dieu basée sur cela. Ou peut-être que c'était le contraire. Les gens les laissaient faire tout ce qu'ils voulaient, ils étaient très permissifs. Les responsables étaient très permissifs. Et ils ont commencé à se faire cette image de Dieu. Il y a toutes sortes de raisons. Ils peuvent simplement être ignorants. Ils ne savent tout simplement pas qui est le vrai Dieu et ne le comprennent pas. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles les gens peuvent avoir une perception erronée ou une vision erronée de Dieu. Mais mes frères, nous n'avons pas à deviner. Nous n'avons pas à deviner comment Dieu agit et comment il pense. Ouvrez votre Bible à Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Nous n'avons pas à deviner comment Dieu agit et comment il pense. Éphésiens chapitre 6. La Bible est claire. Nous n'avons pas à nous raccrocher à des brindilles et à deviner. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Éphésiens chapitre 6, verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les dans la discipline et l'exhortation du Seigneur. Remarquez qu'avant d'aborder l'éducation et l'exhortation, il est dit aux pères d'élever leurs enfants dans l'éducation et l'exhortation du Seigneur. Parents, nous avons un rôle très, très, très important à jouer dans la façon dont nos enfants percevront Dieu à terme. Ce n'est pas un hasard si les pères humains sont appelés « pères ». Avec un P minuscule, bien sûr. Mais Dieu le Père est aussi un Père, avec un P majuscule. La façon dont nous traitons et gérons les situations et nos enfants a une grande influence sur la façon dont ils perçoivent Dieu. C'est une responsabilité très, très importante. Nous devons être très, très attentifs à cela. Mais il est dit ici, l'éducation et l'exhortation du Seigneur. Dieu nous nourrira à travers nos problèmes. Il sera là pour nous aider. Il nous nourrira. Pensez-vous à Dieu de cette manière? Les Écritures disent que vous devriez le faire. Il nous nourrira à travers nos problèmes. Mais il nous exhortera également s'il a besoin d'attirer notre attention. Pensez-vous à Dieu de cette manière? Dieu nous avertit également pour attirer notre attention. Dieu le Père est parfaitement équilibré. Parfaitement équilibré. Il sait exactement ce dont nous avons besoin et quand nous en avons besoin. Il sait exactement comment intervenir dans nos vies lorsque cela est nécessaire. Romains 11. Romains 11. Dieu est parfaitement équilibré. Romains 11, verset 22. Romains 11, verset 22. Considérez donc la bonté de Dieu et sa sévérité envers ceux qui sont tombés, mais sa bonté envers vous, si vous demeurez dans sa bonté. Sinon, vous serez retranchés. Dieu veut que nous voyions sa bonté et sa sévérité. Les deux sont nécessaires. Dieu veut que nous voyions les deux en lui. La bonté et la sévérité. Nous servons un Dieu de conséquences. De bonnes conséquences, de mauvaises conséquences. Les conséquences ne sont pas toujours mauvaises. Vous avez de bonnes conséquences. Si vous allez travailler, vous êtes payé. C'est une excellente conséquence. Nous servons un Dieu de conséquences, bonnes et mauvaises. Avant, quand je pensais à Dieu, à ma propre vision et image de Dieu, je me demandais, d'accord, et je parlais d'équilibre, vous savez, Dieu est 50% bonté et 50% sévérité. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est juste, vous savez, la façon dont mon esprit fonctionne. Je médite sur ce genre de choses. Vous savez, Dieu est 50% bonté, 50% sévérité. Plus je suis chrétien, plus je grandis et mûris dans la foi, moins je suis sûr que ce soit le cas. Je pense que Dieu est peut-être à 90% bon et à 10% sévère. C'est en partie ce que j'ai vécu et peut-être aussi certaines des décisions que j'ai prises. Vous avez peut-être vécu la même chose. Je pense que Dieu est à 90% bon et à 10% sévère. Il n'est sévère que lorsqu'il le faut, c'est ce que je veux dire. C'est le sens de tout cela. Vous savez, en tant que ministre, on nous enseigne à être aussi doux que possible et aussi ferme que nécessaire. Doux autant que les membres, les laïcs, vous le permettent, et ferme autant que nécessaire. C'est une excellente approche pour les parents également. Être doux autant que vous le pouvez avec vos enfants, mais ferme autant que vous le devez en fonction de leurs actions. Je pense en fait que c'est ainsi que Dieu. Je crois à 100% que c'est ainsi que Dieu est. Psaume 118. Lire et mieux comprendre le Dieu que nous servons, le vrai Dieu. Pas une idée, pas une image imaginaire du Dieu que nous servons, du Dieu que nous devenons. Psaume 118. Lisons ce psaume sur ce Dieu. Psaume 118, début du psaume, « Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » Qu'Israël dise maintenant que sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise maintenant que sa miséricorde dure à toujours. Comprenez-vous? Verset 4. Que ceux qui craignent l'Éternel disent maintenant que sa miséricorde dure à toujours. Dieu est miséricordieux. Cela ne ressemble pas à un Père qui est prompt à nous punir. Sa miséricorde dure à jamais. Deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme certains le pensent, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu veut que nous nous repentions tous, à tel point qu'il est prêt à être longanime envers nous. Il ne veut pas que quiconque périsse. Dieu veut que tous les êtres humains, tous ses enfants, se souviennent qu'ils appartiennent à Dieu, qu'ils sont tous ses enfants et qu'ils s'en sortent. Dieu travaillera avec nous. Travaillera avec nous et travaillera avec nous. Il ne nous abandonnera pas. Il ne vous abandonnera pas. Il ne m'abandonnera pas. Il travaillera avec nous aussi longtemps que nécessaire. Mais, mes frères, nous ne pouvons pas profiter de cela. Nous ne pouvons pas profiter de cette miséricorde. Nous ne pouvons pas considérer cette miséricorde comme une faiblesse. Galates, chapitre 6. Nous ne pouvons pas profiter de cela. La nature humaine est de profiter de la miséricorde de ceux qui souffrent depuis longtemps. Nous ne pouvons pas faire cela. Galates, chapitre 6, verset 7. Ce verset commence de manière puissante. Ne vous y trompez pas. Bon, ce que nous allons lire est quelque chose qui peut nous tromper, qui peut nous induire en erreur, que nous pouvons mal juger ou mal interpréter. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons, si nous ne nous relâchons pas. Ne vous laissez pas tromper. Frères et sœurs, ne tombez pas dans le piège de penser que Dieu prendra tout ce que nous voulons et sera miséricordieux à l'infini, sans qu'il y ait de conséquences. Ne vous laissez pas tromper par cela. Ne vous laissez pas tromper en pensant que nous pouvons simplement échapper au péché. Oui, Dieu est miséricordieux. Oui, Dieu est longanime. Oui, Dieu veut que tout le monde réussisse. Mais il ne se laisse pas moquer. Si nous pensons que nous pouvons nous en tirer à bon compte parce que Dieu est si miséricordieux, c'est une forme de moquerie envers Dieu. Ce n'est pas quelque chose que je voudrais faire. Nous finirons par récolter ce que nous avons semé, le positif comme le négatif. C'est une promesse. C'est une promesse. Le monde ne comprend pas cela à propos de Dieu. Il ne comprend pas sa miséricorde. Il ne comprend pas qu'il ne faut pas se moquer de lui et qu'il y aura des conséquences. L'éducation et l'avertissement, la bonté et la sévérité. Il ne comprend pas cela à propos de Dieu. Nous, oui. Nous, oui. Nous sommes dans une excellente position dans cette Église, avec son esprit et sa vérité, pour comprendre qui est Dieu et ce qu'il est. Alors, comment pouvons-nous nous façonner pour lui ressembler davantage? Comment nous modeler pour ressembler davantage à Dieu? Tout d'abord, mes frères, nous devons lui parler. Nous devons lui parler. Premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 5. Premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 5. Nous devons parler à Dieu si nous voulons lui ressembler un jour et agir comme lui, ce qui signifie que nous devons lui parler. Premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Mes frères, la prière, c'est parler à Dieu. Dieu veut nous parler. Où il veut que nous lui parlions par la prière. Lorsque vous priez, demandez à Dieu de vous aider à ressembler davantage à lui dans vos actions et à penser davantage comme lui. Intégrez cela dans votre prière. Remerciez, comme il est dit ici au verset 18, en toute chose. Faites-le dans la prière et faites-le sans cesse. Ne cessez pas de prier régulièrement. Jacques, chapitre 5, verset 16. Jacques 5, 16. Confessez vos fautes les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière efficace et fervente d'un homme juste a beaucoup de puissance. Cela s'inscrit dans le contexte de la prière les uns pour les autres et de la guérison, mais d'une manière générale, la prière efficace et fervente d'un homme juste a beaucoup de puissance. Priez régulièrement, mes frères. Nous devons prier et parler à Dieu régulièrement. Cela ne doit pas nécessairement prendre des heures. Nous ne sommes pas obligés de prier Dieu pendant des heures et des heures. Ce n'est pas nécessaire. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous traversez une période difficile, vous prierez peut-être plus longtemps. Mais vous n'avez pas besoin de prier Dieu pendant des heures et des heures, et cela ne doit pas non plus être 5 minutes. Si vous êtes un enfant ou si vous êtes nouveau dans la foi, vous aurez peut-être un peu de difficulté à prier pendant de longues périodes, mais progressez. Nous l'avons entendu dans d'autres messages. Renforcez-vous dans votre prière et dans le temps que vous consacrez à la prière. B. Mais en fin de compte, parlez à Dieu. C'est cela l'essentiel. Parlez à Dieu. Cultivez cette conversation avec Dieu. Comme il est dit ici, la prière efficace d'un homme juste a une grande efficacité. Assurez-vous que vos actions sont également justes lorsque vous priez Dieu. C'est la prière efficace et fervente d'un homme juste qui a une grande efficacité. Mais nous ne devons pas seulement parler à Dieu, nous devons également écouter lorsque Dieu nous parle. Deuxième épître à Timothée, chapitre 3. C'est à double sens. Nous ne pouvons pas parler tout le temps. Deuxième épître à Timothée, chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et équipé pour toute bonne œuvre. Il y a une inspiration dans ce verset. L'inspiration signifie « soufflé par Dieu ». Lorsque nous parlons, nous respirons. Nous expirons des mots. Eh bien, l'inspiration de Dieu est l'écriture soufflée par Dieu. Toute l'écriture a été soufflée ou prononcée par Dieu. Le fait est que c'est Dieu qui nous parle. Les écritures sont Dieu qui nous parle. Lorsque nous prions, nous parlons à Dieu. Nous parlons directement à Dieu. Lorsque nous lisons les Écritures, Dieu nous parle directement. C'est une communication bidirectionnelle. Parfois, j'entends des frères dire, et peut-être que je ressens moi-même cela, « Oh, tu sais, je n'ai pas vraiment l'impression que Dieu me parle ou que je suis proche de Dieu. Je n'ai pas l'impression qu'il me parle. » Eh bien, il te parle. Tu dois juste écouter. Il suffit d'ouvrir votre Bible et de la lire. C'est Dieu qui vous parle. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, c'est Dieu qui vous parle. Ce livre contient plus de 750 000 mots. Ce sont les paroles de Dieu qui s'adressent à nous. Il suffit d'ouvrir les yeux pour les lire et d'ouvrir nos oreilles spirituelles pour les comprendre. Deuxième épître à Timothée, chapitre 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a pas à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Nous devons étudier la parole de Dieu si nous voulons entendre ce que Dieu a à dire. C'est une chose de la lire. C'en est une autre de l'étudier, de la creuser. Cela demande du travail. C'est comme les devoirs. Mes frères, il y a des moments où je ne voulais pas faire mes devoirs quand je rentrais de l'école. Je ne voulais pas faire mes devoirs. Mais si je voulais avoir un aide en cette matière, je devais faire mes devoirs. Je devais étudier. Dieu nous dira exactement ce qu'il faut faire pour finir par lui ressembler et agir comme lui si nous ouvrons le livre et écoutons. Étudier n'est pas nécessairement très difficile. Ce n'est pas nécessairement très difficile. Lisez un article. Lisez l'un de nos articles phares avec votre Bible ouverte et lisez les Écritures. Allez sur le site web lorsque vous pouvez cliquer dessus. Si vous aimez lire en ligne, vous pouvez aller dans un article. Les versets s'y trouvent. Ils sont hyperliés. Cliquez sur le verset. Le passage se trouve juste là. Lisez un article que vous venez d'étudier. Vous venez d'étudier la parole de Dieu. Cela n'a pas besoin d'être difficile. Écoutez un sermon sur le chemin du travail. Écoutez un sermon pendant votre promenade. Écoutez un sermon avec votre Bible ouverte. Il existe toutes sortes de façons d'étudier la parole de Dieu. Lisez un chapitre du livre des Proverbes. Lisez l'un des psaumes. Réfléchissez-y. Étudiez-le. Cherchez une définition. Cela n'a pas besoin d'être difficile. Faites tout ce qu'il faut pour écouter Dieu et formez votre opinion de lui en vous basant sur ce qu'il vous dit, et non sur votre imagination, vos émotions ou ce que quelqu'un d'autre vous dit. Dieu vous parlera si vous l'écoutez. Nous ne devons pas seulement parler à Dieu et l'écouter, nous devons aussi penser à Dieu. Nous devons penser à lui. Il doit être dans nos pensées. Après tout, c'est notre avenir. C'est ce que nous voulons devenir. Psaume 77, verset 12. Je méditerai sur toutes tes œuvres et je parlerai de tes hauts faits. Je penserai donc à toi et je parlerai de toi. Je penserai à toi et je parlerai de toi. Mes frères, nous devons souvent penser à Dieu. Nos pensées doivent être tournées vers Dieu et les choses de Dieu. Cela ne doit pas nécessairement être d'une manière étrange, où l'on ne parle que de Dieu, 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 Dieu. Mais nous devons penser à Dieu et aux choses de Dieu. Cela doit être quelque chose de naturel pour nous. Dieu doit être au premier plan de nos pensées. Encore une fois, pas d'une manière étrange. Vous êtes au travail, vous travaillez sur un tableur, et vous savez que c'est Dieu qui a créé ce tableur et qui y a mis les chiffres. Non, c'est bizarre. Vous n'allez pas passer votre temps à penser à Dieu, à l'avoir constamment à l'esprit. Mais c'est comme quelqu'un qui vous est cher. Vous pensez souvent à cette personne. Elle est dans vos pensées. Vous vous demandez comment elle va. Vous prenez régulièrement de ses nouvelles. Nous devrions penser à Dieu et aux choses de Dieu. Les Écritures disent que la bouche parle de l'abondance du cœur. Lorsque nous pensons à quelque chose, nous le disons. Nous parlons des choses de Dieu. Mes frères, nous devrions parler des choses de Dieu. Cela ne doit pas nécessairement prendre la forme d'un sermon. Ce serait prétentieux. Je veux dire, si vous ne faites que parler de Dieu par-ci, Dieu par-là. Cela ne doit pas nécessairement prendre la forme d'un sermon. Parlez de l'espoir qui est en vous. Pourquoi êtes-vous plein d'espoir? Pourquoi êtes-vous plein d'espoir? Qu'est-ce qui vous rend heureux? Les bénédictions de Dieu. Parlez d'une erreur que vous avez peut-être commise, puis de la façon dont vous vous êtes repenti et dont vous avez appliqué une partie des Écritures d'une manière ou d'une autre, et comment cela vous a rendu meilleur. Peut-être travaillez-vous sur une faiblesse et êtes-vous en train de la surmonter. C'est parler des choses de Dieu. Parlez de la façon dont vous avez été béni au cours de votre troisième année de dîme. Comment vous ne pensiez pas avoir assez d'argent, mais vous avez finalement obtenu une augmentation au travail ou peut-être qu'une facture importante a été réglée. C'est parler des choses de Dieu. Mais pour cela, vous devez penser à Dieu. Et pour penser à Dieu, vous devez lui parler et le laisser vous parler. Tout fonctionne ensemble. Tout fonctionne ensemble. Maintenant, nous avons cherché à devenir Dieu, bien sûr, à lui ressembler à l'avenir et à agir comme lui. Nous en avons parlé. C'est amusant de parler de prier Dieu, d'étudier sa parole, de méditer et de parler de lui. Mais ce n'est pas la seule façon. Ce n'est pas la seule façon de devenir plus comme Dieu. En fait, il existe une autre façon essentielle. Une façon qui est en réalité un peu plus difficile. Un peu plus difficile que toutes ces choses. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour que nous devenions plus semblables à Dieu. Ce que nous devons faire, c'est endurer les épreuves. Endurer les épreuves. Dieu se décrit comme longanime. Nous l'avons lu tout à l'heure. Il est longanime. Dieu souffre. Il est très patient. Mais Dieu veut que nous soyons comme lui. Romains, chapitre 15. Le Père est très patient, très longanime. Par définition, nous devons donc l'être aussi si nous voulons devenir, penser et être comme lui. Romains, chapitre 15. Je vais lire plusieurs versets ici. Romains, chapitre 15. Reprenez au début du chapitre. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses des faibles, et ne pas nous plaire à nous-mêmes. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, pour son édification. Car Christ n'a pas cherché à plaire à lui-même, comme il est écrit, « Les outrages de ceux qui t'outragent retombent sur moi. » Ainsi, Christ n'a pas toujours cherché à se faire plaisir. Il aurait pu. Il est Dieu. De toute évidence, le Père n'a pas cherché à se faire plaisir. Il a permis que son Fils soit sacrifié. Verset 4. Car tout ce qui a été écrit dans le passé a été écrit pour notre instruction, afin que, par la patience et la consolation des Écritures, nous puissions avoir l'espérance. Donc, la patience, l'attente de Dieu. Lorsque nous sommes mal à l'aise, nous nous tournons vers les Écritures pour trouver du réconfort. Verset 5. Que le Dieu de la patience et de la consolation vous accorde d'avoir les mêmes sentiments, d'être comme cela. Le Dieu de la patience dit d'être comme cela. Les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, le Dieu de la patience veut que nous ayons le même esprit. Cette patience vient dans des situations où nous pouvons être mal à l'aise. Ce manque de confort s'appelle les épreuves que nous devons traverser. La souffrance déclenche le mécanisme d'apprentissage. Je le répète. La souffrance déclenche le mécanisme d'apprentissage. Hébreux, chapitre 5, verset 8. Bien qu'il fût fils, en référence à Jésus, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Et ayant été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut parfait. Appelé de Dieu et grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Christ a été rendu parfait, et pourtant il est resté ainsi malgré la souffrance. Il a été rendu parfait. Il avait un plan. Il est venu mourir pour nos péchés. Mais il a appris à travers la souffrance. Il a maintenu sa perfection à travers la souffrance. C'est possible. C'est possible. C'est difficile, mais c'est possible. Et nous aussi, mes frères, nous pouvons devenir parfaits. Christ était déjà parfait, il est resté ainsi à travers la souffrance. Nous pouvons devenir parfaits par la souffrance et nous pouvons apprendre l'obéissance si nous obéissons à 2 Timothée, chapitre 2, verset 3. Ouvrez vos Bibles à 2 Timothée, chapitre 2, verset 3. Endure donc les souffrances, comme un bon soldat de Jésus-Christ, nous en avons parlé l'autre jour. Endure les souffrances, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Le Père est le Seigneur des armées. Christ est le capitaine des armées. Frères et sœurs, nous sommes des soldats dans cette armée, mais nous devons endurer les difficultés comme un bon soldat de Jésus-Christ. Ces difficultés viennent des épreuves que nous devons affronter. Parfois, ce sont des épreuves ardentes. Des épreuves de santé que nous traversons. Un être cher peut mourir. C'est une épreuve. Un membre de la famille ou un ami quitte l'église. C'est une épreuve. Vous êtes licencié de votre travail. C'est sans aucun doute une épreuve. Vous devez refaire le toit de votre maison et vous n'en avez pas les moyens. Votre voiture tombe en panne. Ce sont toutes des épreuves. Un conjoint non converti vous reproche d'aller à la fête. Ce sont toutes des choses, mes frères, que nous devons endurer. Endurer les épreuves. Mais le but est de devenir meilleur et d'être transformé à l'image de Dieu. Ces épreuves que nous traversons. Premier épître de Pierre, chapitre 4, verset 12. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange l'épreuve ardente qui vous est imposée, comme si quelque chose d'étrange vous arrivait. Pourquoi est-ce que je traverse des épreuves? C'est très étrange. On vous dit ici de ne pas trouver cela étrange. Ne pensez pas que c'est étrange. Anticipez-le. Attendez-vous-y. Mais réjouissez-vous. Ainsi, au lieu d'être surpris lorsque les épreuves surviennent, réjouissez-vous dans la mesure où vous participez aux souffrances de Christ. Lorsque nous souffrons et traversons des épreuves, nous ressemblons davantage à Jésus-Christ qui a traversé des épreuves. Nous devons donc nous réjouir de ce fait. Nous ne nous réjouissons pas à cause de l'épreuve. Nous nous réjouissons parce que nous sommes transformés et que nous ressemblons à Jésus-Christ. C'est une raison de se réjouir. Reprenons, afin que, lorsque sa gloire sera révélée, vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse. Ainsi, lorsque nous traversons des épreuves et que nous sommes comparés au Christ, nous devons nous réjouir. Pourquoi? Parce que regardez ce qui lui est arrivé. Il a été glorifié. C'est une raison de se réjouir. Lorsque nous traversons cette épreuve ardente, ne pensez pas que c'est étrange. Dites plutôt, vous savez quoi? Je deviens plus semblable à Dieu en traversant cette épreuve. Les épreuves sont un moyen très puissant pour nous de devenir plus semblables au Christ et, en fin de compte, plus semblables à Dieu. Mes frères, alors que nous arrivons à la fin, je voudrais que vous notiez cela ou que vous vous en souveniez, mais demandez-vous régulièrement, le Dieu que je vois dans mon esprit, celui à qui je prie, celui que j'étudie ou sur lequel je lis, est-il le Dieu que je vois, est-il celui qui est révélé dans la Bible? Ou est-ce une idée que je me fais de lui? Examinez votre pensée. Le Dieu auquel je pense chaque jour, celui que je vois dans mon esprit, est-il le Dieu qui est révélé dans la Bible? Ne vous fiez pas seulement à vos sentiments ou à la perception de quelqu'un d'autre. Suivez l'Esprit de Dieu. Suivez les Écritures pour comprendre Dieu. Mes frères, nous avons été créés à l'image de Dieu, et non l'inverse. Nous ne devons pas limiter Dieu à notre propre façon de penser. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. C'est une mauvaise façon de voir les choses. J'ai pris beaucoup de plaisir à relire cet article, et j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Cet article que j'ai écrit pour Pilar, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Je vous encourage à le relire. Relisez-le régulièrement avec d'autres articles, mais relisez-le régulièrement. Laissez-vous inspirer. Je l'ai lu en préparant ce message, et cela m'a inspiré. Cela m'a rappelé, tout d'abord, que Dieu se reproduit lui-même. C'est une compréhension incroyable, extraordinaire. Je crois que c'est la plus grande connaissance accessible à l'humanité. Mais tout aussi important, cela m'a rappelé que nous devons adorer Dieu et le comprendre selon son esprit et selon la vérité. Ne vous contentez pas de croire ce que les autres disent de votre Père. C'est votre Père. Vous avez la chance de le comprendre. Apprenez et souvenez-vous de votre Dieu, votre Père, par vous-même. Mes frères, assurez-vous que le Dieu que vous servez n'est pas le Dieu que vous pensez connaître. Assurez-vous que c'est le Dieu que vous connaissez avec certitude.